Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une histoire des luttes des femmes des années 68 avec notre invitée Michèle Zancarini-Fournel, historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 1. Et vous êtes également autrice sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, d'Histoire des femmes en France 19e-20e siècle, paru aux presses universitaires de Rennes en 2005, et de Le Moment 68, une histoire contestée, paru aux éditions du Seuil en 2008, et surtout des deux ouvrages autour desquels se concentre notre émission. 68, une histoire collective, 1962-1980, que vous avez co-dirigé avec Philippe Artière, qui est réédité cette année, en 2018, aux éditions La Découverte. Et c'est vous qui avez rédigé une bonne partie quand même des notices, sur justement l'histoire des luttes des femmes des années 68, sur le féminisme de cette époque également. Et vous avez également écrit cette somme assez passionnante qui est « Les luttes et les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours », paru aux éditions La Découverte en 2016, et dont nous n'aborderons malheureusement qu'une petite partie, puisque c'est tellement vaste, ça ne parle pas que des femmes, ça ne parle pas que des années 68, mais c'est une histoire qui, pour en dire un mot, est une histoire qui est très novatrice dans le sens où déjà la chronologie est quand même très différente de celle qui est habituelle, c'est à partir de 1685, donc du coup plutôt d'un moment de l'histoire coloniale de la France plutôt que de l'histoire de la France métropolitaine, c'est intéressant. C'est une histoire qui intègre énormément l'histoire des femmes et de leur lutte, et l'histoire des racisés, des colonisés et de leur lutte, et voilà, et tout en gardant tout de même une histoire des ouvriers et des ouvrières et de leur lutte, mais dans une perspective renouvelée. Et bon, évidemment, c'est up to date historiographiquement, donc bon, on conseille vivement la lecture de cet ouvrage. Donc pour justement repartir de cet ouvrage, dans le chapitre Les luttes et les rêves consacré au moment 68, vous revenez un petit peu sur les années qui précèdent 68, et notamment sur les vies des femmes et leur micro-insubordination, comme vous dites, qui vont précéder 68 et qui du coup change un peu la chronologie habituelle de mai 68 comme le point de départ vraiment de l'histoire de tout ça. Et est-ce que vous pourriez du coup nous décrire un petit peu ce qui va précéder l'histoire un peu canonique, disons, du MLF et du féminisme en France dans les années 68-70?
Oui, alors je vais repartir de l'ouvrage que vous avez cité, donc co-dirigé avec Philippe Artière, et 83 auteurs quand même, hein, je voudrais préciser. Donc je ne suis pas du tout la seule auteure de ce livre, mais j'ai fait ce qu'on appelle les récits de ces années 68. Alors années 68, c'est un syntagme qu'on a créé dans un séminaire de l'Institut d'Histoire du Temps Présent en 1994, donc ce n'est pas nouveau, et qui voulait mettre en avant l'idée que autour de l'épicentre qu'a pu représenter les événements de mai-juin 68, dont on commémore au célèbre le cinquantenaire cette année, il y avait une période de moyenne durée que, globalement, moi je fais commencer en 1961, 1962, alors je vais expliquer pourquoi, et terminé en 1981. Alors 1961-1962, 61, c'est la création du planning familial de Grenoble, donc qui en fait est le premier, la première structure à diffuser des moyens contraceptifs. C'est totalement illégal, hein, c'est contraire aux lois de 1920-1923. Mais c'est une révolution, on peut dire. Ça fait partie de la révolution contraceptive qui va être celle de ces années-là, hein, auxquelles les féministes ont beaucoup contribué, et qui se termine par les deux lois Veil de 1974 et 1975. 74 contraception, 75 IVG. Et donc, la 62, évidemment, comme chacun sait, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Et jusqu'en 81, parce que pour moi, 81, c'est la délégation aux politiques de l'État, de tout ce capital, on peut dire, de contestation qui a été dans ces années-là. Et avec l'idée que peut-être ça allait changer la vie, comme disait le programme du Parti Socialiste, et c'est pas tout à fait cela qui s'est passé. Mais voilà, donc c'est cette période-là. Alors il y a d'autres historiens qui envisagent une autre chronologie, plutôt autour des années 74-75, avec un peu un effondrement des groupes d'extrême gauche et le développement d'un chômage de masse, ou bien, si on est dans une histoire sociale dure, 79, la grève des sidérurgistes en Lorraine et dans le Nord, qui acte la défaite, hein, de la classe ouvrière. Voilà, donc c'est une discutée, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une période de moyenne durée. Maintenant, je vais revenir à votre question, mais c'était pour expliquer d'où on démarrait, quoi. Donc, effectivement, dans les années 60, il se passe, on va dire, un certain nombre de frémissements et un certain nombre aussi d'affirmations qui vont mettre en branle toute une série de normes sociales et culturelles, politiques. Il y a beaucoup de choses qui passent autour des femmes, effectivement, et autour de la question de la maternité et surtout des avortements clandestins. Donc c'est à partir de cette prise de conscience qui a été faite, le fait en fait de gynécologues, hein, qui ont dénoncé ces avortements clandestins, ces femmes qui ne pouvaient pas avoir de contraception et qui avaient recours à des moyens divers et variés, et souvent très très violents et souvent très dangereux pour leur santé. Et donc c'est à partir de là que se font les premiers regroupements, on peut dire. Alors féministes, la question est discutée, mais en tout cas qui ont des revendications pour les femmes. Et les revendications, alors ça peut paraître au regard après les luttes féministes d'après 68, ça peut paraître mièvre, mais à l'époque, c'était quand même une révolution, c'est-à-dire l'idée qu'on ne pouvait pas mourir pour avoir des enfants et qu'il fallait pouvoir planifier les naissances. Et d'où le nom d'abord de la première association qui s'appelait Maternité Heureuse. Hein, donc on n'était pas du tout dans un refus de la maternité. C'était pour que la maternité soit heureuse, le nom sont très importants. Et la deuxième, à partir de 1960, est en planning familial. Donc on est là dans la planification de l'après-guerre, dans tous les domaines, économiques et autres, mais aussi des enfants. Et donc c'est un rassemblement à la fois de gynécologues, de femmes qui réfléchissent à la condition, au rôle féminin, donc de sociologues, de journalistes aussi. Jacques Desrogis, qui était journaliste à l'Humanité, a eu un rôle extrêmement important, contrairement à la politique de son parti, qui était tout à fait hostile à toute contraception et à tout avortement qui aurait réduit la capacité prolifique de la classe ouvrière. Ça, c'était la thèse de Jeannette Torres-Vermersch. Et donc, sous le vocable de libre maternité, donc les mots sont piégés, hein. Libre maternité du Parti communiste français de 1956, c'était le refus de la contraception et de l'avortement.
Voilà. Oui, qui était considéré comme un vice de la bourgeoisie, hein.
C'est ça. Et donc, évidemment, aujourd'hui, ça surprend un peu, mais c'est plus du tout la position du Parti communiste, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Hein, mais... Et puis, il y avait des jeunes femmes, d'ailleurs, qui ont pris ce nom-là, jeunes femmes, qui étaient des protestantes, qui réfléchissaient aussi entre elles sur la place des femmes, le rôle. Enfin, il y a eu toute une série de remises en cause intellectuelles, politiques, hein. Et dans les syndicats, il y avait des commissions féminines Alors, suivant les syndicats, c'était pas exactement les mêmes positionnements. À la CFTC, qui est devenue CFDT en 1964, il y avait toute une discussion sur la place des femmes au travail, la place des femmes dans la famille, etc. Et à la CGT, il y avait des revendications spécifiques pour les femmes travailleuses. Donc on était là dans l'idée qu'il y avait quand même des rôles féminins, une spécificité féminine. C'était autour de ça que se faisaient les réflexions, qui étaient dans des cercles assez divers, on peut dire, de la société, avec ce coup de tonnerre qui a été qu'on a parlé de contraception à la télévision en 1965, quand il y a eu la campagne présidentielle et que le candidat François Mitterrand s'est opposé au général de Gaulle et il avait promu donc l'idée d'une contraception, d'une libre contraception. Donc c'était un coup de tonnerre parce qu'on n'avait jamais parlé de ça évidemment à la télévision, on n'avait jamais parlé de ça dans une émission politique. Donc voilà, c'est des sujets qui petit à petit se sont imposés dans le débat public. Et en même temps, du point de vue des femmes, parce que je crois qu'il faut vraiment prendre en compte l'ensemble des femmes et puis après les distinguer des organisations revendicatives de types divers, qu'elles soient syndicales, politiques, comme les groupes féministes, etc. C'est pas tout à fait la même chose. L'ensemble des femmes il y avait une mutation profonde au tournant des années 60, alors que la période depuis 45 était la période qui, dans le siècle, est la période où les femmes ont le moins travaillé de façon salariée. Ça veut pas dire qu'elles travaillaient moins, parce qu'elles ont beaucoup travaillé parce qu'elles ont fait des enfants. C'est ce que Yvonne Knibiller appelle le civisme démographique. C'est la période où il y a eu le plus d'enfants par femme du siècle, en moyenne. Et c'est la période où elles ont moins travaillé à l'extérieur, ce qui ne voulait pas dire qu'elles ne travaillaient pas, évidemment. Et à partir du début des années 60, on a un retournement de situation et on a une remontée du travail des femmes à l'extérieur, du travail salarié des femmes, et puis aussi correspondant évidemment à ce qu'on a appelé de façon le baby boom, quoi, la croissance démographique à partir de 1943, c'est les jeunes femmes, les jeunes filles qui arrivaient aussi sur le marché du travail. Donc il y a tout un renouveau là très important, avec cependant des normes sociales extrêmement contraignantes, particulièrement pour les filles, hein, contraignantes de tous ordres. Alors on dit toujours, ça commence maintenant, ça se dit beaucoup que on n'avait pas le droit de porter des pantalons, qu'on n'avait pas le droit de se maquiller dans les établissements scolaires, on n'avait pas le droit de sortir, évidemment. Les garçons pouvaient sortir, mais pas les filles. Enfin, il y avait des normes sociales, familiales extrêmement rigides et qui contraignaient la vie des filles. Et on commençait à avoir cette résistance qu'on appelait à bas bruit, hein, de ce que Dominique Mémie a appelé la domination rapprochée, c'est-à-dire cette mise en cause justement de ce carcan, de cette société bloquée sur ces questions-là. Et donc il y a des frémissements, une fermentation, on peut dire, des esprits bien avant 68.
Et donc cette fermentation des esprits, elle fait un petit peu écho à un livre qui est paru avant, sur lequel on va pas revenir, mais je pense que c'est juste intéressant de mentionner que 1949, c'est l'apparition du deuxième sexe, et que, un petit peu comme toutes ces micro-insubordinations, ces questionnements des années 60, c'est un ouvrage qui, disons, par rapport à ce qui va être produit en termes de théorie critique féministe, de tract, de etc. Après 68, paraît aujourd'hui, quand on relit le deuxième sexe, on voit quand même que y a effectivement toute une série de limites, mais insérées dans le contexte qui était celui de la France d'après-guerre, donc ces années de civisme démographique où il y a une espèce quand même de, pas de chape de plomb, mais où disons que voilà, il y a quand même il y a une exaltation du rôle traditionnel de la femme, une essentialisation extrêmement forte, etc. Ces séries de micro-insubordinations qui commencent dans les années 60 sont le pendant, disons, dans l'histoire plus des idées, histoire intellectuelle, de ce que Sylvie Chaperon appelait les années Beauvoir, c'est-à-dire des années où, effectivement, la critique féministe n'est pas du tout aussi radicale et développée qu'elle ne le sera à partir, enfin, après 68-70, mais où il commence, c'est pas non plus le désert complet sur ce plan-là également. Que, bon, voilà, il y a l'apparition de 49 du deuxième sexe, qui a quand même un certain impact sur la société française. La femme mystifiée de Betty Friedan.
Alors oui, le deuxième sexe, évidemment. Le deuxième sexe, c'est une bombe, si je peux dire, une révolte. Quand il est paru en 1949, une révolution intellectuelle. Hein. Il a d'ailleurs été, il a subi les assauts d'ordre divers de la gauche à la droite. Donc c'est un livre qui a beaucoup, beaucoup fait parler en 1949-1950. Puis il y a une espèce de, comme j'ai commencé à raconter un récit tout à l'heure, à partir des années 60, j'ai effectivement, il y a une espèce de, après, de diminution, on peut dire, de l'effet, en tout cas public, du deuxième sexe. Et effectivement, toutes les enquêtes qui ont été faites après montrent que le deuxième sexe a été lu par les femmes, les féministes, avec un certain décalage, hein, plutôt 10-20 ans après que sur le moment même. Hein. Donc il y a eu cette espèce de, effectivement, chape de plomb qui était très très forte. Avec cependant, et ça c'est ce que dit Sylvie Chaperon dans son livre, hein, Les années Beauvoir, que vous avez cité, avec cependant des associations de femmes, alors qu'on ne peut pas forcément qualifier de féministes, mais qui existaient, qui rassemblaient des femmes et qui faisaient qu'il y avait quand même une intervention, on peut dire, dans la cité. Alors plutôt, on pourrait parler de citoyenneté sociale, peut-être plus que politique, hein, puisque le suffrage, le droit de vote, en tout cas pour les métropolitaines, donc ce droit de vote avait été accordé, mais en fait il y avait très très peu d'accès au monde politique des femmes. Donc c'est plutôt dans le domaine de la citoyenneté sociale et d'une discussion politique, on peut dire dans des associations type l'Union des femmes françaises, je pense, ou d'autres associations catholiques, qu'il y avait ce regroupement des femmes. Et donc le deuxième sexe a eu une importance différée, on pourrait dire, une très grande importance sur le moment même où il est paru, et ensuite une importance différée. Alors le livre de Betty Friedan, en fait, a été traduit seulement en 1965. C'est d'ailleurs Yvette Roudy qui l'a traduit, hein, dans le cadre d'un petit groupe qui était lié au club socialiste de l'époque, qui s'appelait le MDF, Mouvement Démocratique Féminin, lié au parti socialiste SFIO de l'époque, et qui, c'est d'ailleurs ce MDF qui a poussé François Mitterrand à intervenir en 65, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il y a des chronologies un peu différentielles des deux ouvrages qui ont eu leur importance. Mais le livre de Betty Friedan a été diffusé dans des milieux plutôt féministes, plus étroits, que le deuxième sexe, qui a été diffusé quand même à des milliers d'exemplaires à partir de 1949.
Et alors justement, le fait que vous ayez évoqué le MDF permet de faire la transition, puisque c'est une sorte d'émanation, hein, de ce MDF qui est du coup FMA, qui à l'époque veut dire féminin masculin avenir. On n'est pas encore sur un titre très choc, et puisqu'après il va s'appeler féminisme marxisme action, donc quand même on voit qu'il y a eu une forme de radicalisation, hein, dans ces années 68. Et c'est ce mouvement qui est un groupuscule, hein, qui compte quelques personnes, hein, qui a déjà été évoqué par Christine Delphi dans une émission qu'on a faite avec elle, qui va placarder justement à la Sorbonne occupée la première affiche, voilà, qui invite les étudiants qui veulent changer les hiérarchies à questionner aussi les rapports femmes-hommes, et les étudiantes à ne pas simplement suivre les revendications des hommes, mais aussi avoir leurs propres revendications.
Oui, alors ce que vous évoquez est important, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas eu de féministes en 68. Or, si, il y en a eu, pas beaucoup, qui se sont exprimés publiquement, mais il y en a eu, c'est important. Alors ce que je voudrais souligner sur ce groupe FMA, je ne sais pas, ça a peut-être été déjà dit, je me répéterai donc, c'est que c'était un groupe mixte au départ. Et c'est seulement après 68 qu'il est devenu non mixte. Donc déjà, je pense qu'il faut le dire, parce que ça signe aussi quelque chose qui, sur lequel on insiste un peu plus maintenant, les jeunes chercheuses, c'est qu'il y a une diversité de l'organisation féministe dans ces années-là, et qu'à côté d'un MLF qui est noyau dur, si je peux dire, donc non mixte, il y a toute une série d'autres organisations féministes, mais qui sont mixtes. Voilà, ça, déjà la question de la mixité est une question qu'on rediscute aujourd'hui. Donc voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans ce petit groupe, alors c'était vraiment petit groupe, c'était moins de 10, hein, il y avait, du fait de sa vie, c'était un élément biographique, elle le raconte elle-même, Jacqueline Feldman, qui raconte ça dans un article de Clio de 2009, donc le premier, elle a été à l'origine de ce groupe FMA, et donc elle... Elle a traduit, elle était mariée avec un Norvégien et donc elle pratiquait l'anglais couramment et elle a traduit les rapports qui avaient été faits aux États-Unis sur la sexualité. Donc c'est une façon d'introduire aussi, autre que ce qu'on a dit et redit sur Nanterre, les questions de sexualité dans la, qui n'étaient pas seulement les questions de contraception et d'avortement. Dans le débat public, on peut dire, en fait tout petit.
Vous parlez du rapport Haidt, du coup,
oui,
sur la sexualité féminine.
Voilà, qu'elle traduit, qu'elle discute. Et après, c'est à partir de ça qu'elle va faire un tract qui a été diffusé à la nouvelle université de Vincennes, les premiers actes, on peut dire, du mouvement féministe. Et donc, voilà, c'est les deux choses que je voulais dire. Et du coup, aussi dire que quelque chose qui est très peu connu, c'est qu'il y a eu chez les scientifiques, il y a eu tout un mouvement, chez les femmes scientifiques, de discussion avant 68 sur cette question de la différence des sexes, sur la question à la fois hiérarchique dans les laboratoires, c'est-à-dire qui étaient les chefs des laboratoires, des hommes, le fait que les femmes ne montaient pas dans la hiérarchie, c'est des questions qu'on discute encore aujourd'hui au CNRS, hein, du temps qui était... entre leur responsabilité familiale, l'élevage des enfants, tenir le foyer et puis leur vie dans les laboratoires. Et elles avaient fait une revue qui s'appelait Porisme. Elles ont fait un numéro qui annonçait une guerre des sexes à venir. Donc, si vous voulez, avant 68. Voilà. Donc, et avant la publicisation du MLF comme mouvement. Donc, voilà. Je crois que c'est important pour voir... ce que j'appelle ces frémissements qui sont aussi qui font que c'est pas l'Immaculée Conception 68, le féminisme, etc. Hein, c'est y a des choses, bon, j'appelle ça le rhizome, hein, des rhizomes, des petits ruisseaux, des rivières qui vont faire quelque chose qui va être apparaître au grand jour après.
Et justement, par rapport à ça, il y a également du côté des femmes ouvrières, des rhizomes, puisque on très souvent, alors déjà très souvent dans l'histoire de mai 68, les grèves ouvrières sont éludées et on résume ça uniquement au mois de mai et aux étudiants parisiens de la Sorbonne. Mais il y a aussi, les femmes sont aussi actives déjà dans les grèves de 68 et même aussi un petit peu avant. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu justement sur cette place des femmes ouvrières dans 68?
Ah oui, tout à fait, et même avant. Mmh. Et donc là se pose une question, c'est comment on trouve des traces de cette histoire-là? Et donc il y a quelques traces qui sont évidemment précieuses, de paroles qui ne sont pas les paroles. Alors c'est très important qu'aujourd'hui on refasse témoigner des gens et qu'on recueille les témoignages de gens ordinaires qui ont vécu 68. Il y a un livre qui vient de paraître à l'atelier... qui est de ce point de vue-là tout à fait remarquable. Mais il est important aussi de recueillir les paroles qui ont été dites au moment même, c'est-à-dire où il n'y a pas ce travail de la mémoire et des 50 ans qui se sont passés depuis. Et donc, on a deux types de sources, trois types de sources, si vous voulez. On a des écrits autobiographiques qui ont été écrits sur le moment même. Alors, Boris Gobi a trouvé comme ça des journaux intimes de lycéennes qui racontaient le poids, justement, de l'internat, etc. Mais je vais vous parler des ouvrières, hein, je n'ai pas oublié. Et j'ai trouvé un journal qui était fait par des ouvrières en 1967 dans une petite entreprise du sud de la France qui retrace, justement, cette condition féminine ouvrière spécifique avec le poids. Elle raconte comment on s'adressait, alors qu'elle était majeure, c'est-à-dire elle avait plus de 21 ans, le patron s'adressait directement à sa mère, envoyait un télégramme à sa mère sur parce que je crois qu'elle avait fait grève, enfin voilà, donc alors qu'elle était majeure, hein. Ou de même, ça c'est dans le film Reprise de Hervé Leroux de 96. Mais on voit une jeune femme, enfin une femme qui dit que quand elle était jeune et qu'elle travaillait à l'usine Vondère de la banlieue, on donnait sa paye à sa mère. Et donc, voilà, c'est cette question-là de domination à la fois patronale, mais aussi familiale, parentale, est quand même extrêmement importante et exprimée avec force déjà. Et puis, il y a des émissions de télévision, des reportages qui ont été faits, donc dans ces années-là, 65-67, d'Eliane Victor, et qui présentent des femmes ordinaires, des femmes, des ouvrières, des femmes d'ouvriers ou des ouvrières, et qui racontent leur quotidien. Et on peut les voir aujourd'hui. Donc alors évidemment, s'il y a toujours des biais, mais comme toute source historique, il y a des biais. Là, le biais, c'est qu'il y a une caméra qui est dans leur foyer, qui les enregistre. Mais elles disent des choses parfois très très fortes, hein, très très fortes. Une femme qui avait, je ne sais plus, 6 ou 7 enfants, je ne me souviens plus, qui dit... Je dis à ma fille qu'il ne faut pas qu'elle ait 6 ou 7 enfants, quoi, et que j'ai qu'une envie, c'est de partir et d'avoir 8 jours à moi. Enfin, voilà, donc des choses qui s'expriment là avant 68. Alors, dans 68, dans le courant de mai-juin, alors oui, effectivement, alors j'espère qu'aujourd'hui, quand même, on arrive à savoir et comprendre qu'il y a une grève générale qui est la plus grande grève générale du 20e siècle, en mai-juin 68. Bon. Peut-être maintenant on commence à le dire un tout petit peu plus. On ne sait pas encore beaucoup qu'il y avait aussi des femmes. Qu'en fait, il y a eu des grèves de femmes dans des entreprises qui étaient essentiellement des entreprises de femmes. C'était seulement parfois la maîtrise, hein, qui était masculine, mais les femmes étaient OS dans ces entreprises. Et qu'il y a eu des revendications spécifiques de femmes et entre autres sur ce qui était appelé à l'époque la parité, mais qui avait rien à voir avec notre parité future, après, quoi, qui était la parité des salaires. Il y avait des revendications d'égalité de salaire, et parfois, on en a quelques-uns, des cahiers de revendications qui ont été faits pour la grève et qui ont été négociés en fin de grève, il y avait cette égalité de salaire à poste égal qui était revendiquée. Donc il y avait ça qui était extrêmement fort. Et puis, sur les conditions de travail, bon... L'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Vonder, hein, donc qui est connu, alors là c'est très connu, il y a un petit film, un plan séquence de 10 minutes qui s'appelle Reprise, hein, qui était filmé le 10 juin 68, justement, le jour de la reprise, et on a une jeune femme qui ne veut pas rentrer, qui le dit très, très vivement qu'elle ne veut pas rentrer, et qui décrit le quotidien de la boîte, où elles sont sales, le noir des piles, leur mère, on dirait qu'elles ont du rimmel, mais en fait, elles n'ont pas de douche, alors que les techniciens qui viennent réparer les machines ont des douches. Enfin, il y a ces revendications très fortes de conditions de travail et qui sont aussi... on voit bien ce rapport au corps, le fait de vouloir être propre. On a les mains, elle dit, on a les mains sales, on a les mains abîmées, on est toutes noires. Enfin, il y a ça qui est extrêmement important. Et ce plan séquence est aussi très important parce que cette jeune femme, elle s'exprime de façon... Alors, c'est un collectif, hein, c'est la reprise du travail, mais elle s'exprime de façon individuelle. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de croisement de la personne, de l'individu qui exprime l'idée de... qui est contre pour aussi la liberté, qui s'exprime contre le fait qu'elle soit extrêmement surveillée par une chef d'atelier qui est très autoritaire, etc. Voilà. Donc tout cela, c'est aussi en 68. Il y a eu donc ces grèves de femmes et on en a quelques témoignages. On a aussi quelques photographies importantes où on voit les femmes à la fois joyeuses ou... on voit aussi les jeunes femmes qui travaillaient dans les grands magasins, qui ont résisté pendant longtemps au mois de juin, qui ont repris très difficilement. Et donc, on a des photographies de ces femmes des grands magasins qui occupaient, qui discutaient, qui, voilà, qui refaisaient le monde aussi, parfois.
Voilà, du coup, c'est important de le dire, effectivement, puisqu'on a... On a une image finalement de mai 68 qui est très androcentrée, très centrée sur les hommes, malgré bon, quelques images. Il y a la fameuse image effectivement de cette femme qui est sur les épaules et qui est en train de manifester. Mais c'est vrai que cette dimension-là est peut-être moins connue. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que après, derrière l'histoire du féminisme, de la création du MLF en 1970, la manifestation de l'Arc de Triomphe du 26 août 1970, la création du MLAC, les lois Veil, etc. etc. Bon, c'est des choses, par exemple, que Christine Elfi nous a racontées dans l'émission qu'on a faite avec elle. Mais par contre, on parle moins peut-être des grèves de femmes des années 70 qui pour le coup ont peut-être encore plus posé que c'était pas simple, la seule question n'était pas seulement celle de la lutte des classes, la lutte anticapitaliste, la lutte antipatronale, mais aussi le fait qu'il y avait aussi dans ces grèves l'apparition de tensions en fait entre les femmes ouvrières et les hommes ouvriers. Les hommes ouvriers qui n'étaient pas donc seulement des ouvriers, mais qui défendaient aussi leurs intérêts de classe entre guillemets en tant qu'hommes. Et du coup, c'est intéressant de revenir sur ces grèves, sur comment est-ce que ces grèves, même si leur objet principal c'est effectivement des revendications de salaire, donc, ce qu'on pourrait appeler la lutte antipatronale, en même temps elles déstabilisent, elles questionnent les rapports de genre de cette époque.
Oui, alors ça a été le cas dès la grève de mai-juin 68. Par exemple, il y a eu des gros débats et il y a des récits là-dessus sur le fait que les femmes occupent leur entreprise la nuit. Parce que la nuit, c'est pas fait pour que les femmes soient dehors. Les femmes, elles doivent être rentrées chez elles la nuit. Et donc, il y a par exemple un témoignage sur des entreprises occupées en Isère, où les hommes viennent la nuit pour remplacer les femmes. Bien, les femmes avaient peur d'être agressées par des représentants, des patrons, etc., ou des jaunes, et elles mettent avec des tuyaux d'arrosage pour la nuit, celles qui restent quand même, il y en avait qui restaient, etc. Donc cette question-là, oui, elle entre en discussion, on peut dire, dans les grèves. Bon, il y a des témoignages de ça. Il y a un groupe qui a travaillé à Besançon avec Chris Marker, le groupe Medvekin, qui a fait filmé des ouvriers et des ouvrières à Besançon, autour de la grève de la Rodiaceta en 67 et en 68. Enfin, il y a un témoignage très très intéressant que Xavier Vignat, dans son livre sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, met en avant. C'est cette femme qui, en 67, se tait, et là, c'est son mari qui parle, et qui, en 68, a pris la parole dans la grève. Donc, on a comme ça quelques petits indices, on peut dire, avec lesquels on peut essayer de reconstruire une histoire. Les femmes sont pas seulement celles qu'on voit toujours sur les photos de 36, celles qui apportent les paniers plein de victuailles aux hommes qui occupent. Ça c'est une photographie très connue, une icône, mais qu'il faut déconstruire, y compris d'ailleurs pour 36, mais ça c'est un autre sujet. Donc c'est très important. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même que les féministes plus ou moins organisées ont croisé et il y a eu des liens qui se sont faits avec quelques grèves de l'après 68. Je pense à une grève, les nouvelles galeries de Thionville, par exemple. Je pense à une grève à Troyes. Et donc, il y a là des rencontres, ce que nous on appelait dans un article avec Xavier Vignat, des rencontres improbables. Alors qu'ils ne sont pas toujours simples, entre ces féministes parisiennes débarquant avec ce qu'elles étaient et retrouvant ces ouvrières provinciales qui ont une vie très différente et puis qui comprennent pas toujours, qui parlent pas toujours le même langage. Mais il y a débat, et puis les féministes prennent aussi parfois en charge, je pense à ces filles qui étaient dans une espèce d'internat. Très fermé au Plessis Robinson, et les féministes prennent en charge cette lutte des filles qui voulaient faire éclater leurs conditions de vie dans cet internat. Donc il y a quand même ces rencontres qui sont pas toujours simples, mais qui existent dans ces années-là et qui en font la richesse politique, on peut dire.
Oui, donc on voit bien que l'histoire finalement du féminisme en France dans les années 68, elle peut pas être isolée des luttes des femmes ouvrières ou même du moment 68. On aurait pu notamment rappeler que au début des occupations en 68, l'occupation de la Sorbonne, les femmes sont cantonnées vraiment à des rôles très stéréotypés, faire le café, etc., etc. Et que le mouvement féministe, c'est pour ça qu'il ressurgit d'ailleurs à chaque fois, c'est que très souvent, au début, les féministes, et notamment c'est le cas en 68, font partie disons, d'organisations de gauche, d'extrême gauche, etc., ou questionnent, disons, des rapports hiérarchiques, des rapports de classe, et puis se rendent compte qu'en réalité, les hommes, leurs camarades avec lesquels elles luttent, questionnent ces rapports hiérarchiques et ces rapports de classe, mais pas du tout les rapports hiérarchiques de genre. C'est important de rappeler effectivement que le mouvement féministe n'est pas né de nulle part, notamment parce que voilà, il procède de toutes ces années 60 dont on a parlé, mais aussi d'insatisfaction plus ou moins forte vis-à-vis des milieux, des organisations gauchistes, du Parti communiste français, etc. Et c'est un petit peu voilà, comme ça que va naître le fameux numéro Libération des femmes, année zéro, en 1970, publié chez Maspero. Est-ce que, du coup, on pourrait revenir un petit peu rapidement sur justement ces...
Alors, je crois que là, il faut faire attention quand même à une chose, c'est que de réfléchir aux questions qui se posaient à l'époque, c'est-à-dire de ne pas prendre nos lunettes d'aujourd'hui pour expliquer une situation, si vous voulez. Il y a eu, les rôles féminins classiques à la Sorbonne, les crèches, etc., ça c'est évident. Mais quand on voit, il y a un film qui existe sur la crèche de la Sorbonne, on voit aussi qu'il y a des hommes qui s'occupent de la crèche. Il n'y a pas que des femmes. Voilà. Donc je pense qu'il faut à la fois, bien sûr, dire ça, mais aussi être un tout petit peu nuancé sur ces choses-là. Il y a des filles qui ont pris la parole, on l'a vu pour le FMA. Ce qui est certain, c'est que globalement, les garçons, les hommes étaient les leaders. Il n'y a qu'à voir les photos de tête, hein, des manifestations, et étaient très souvent les orateurs. Mais il y a eu aussi des oratrices dans les lieux occupés. Hein, donc ça, je crois. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut voir le lien, là aussi, entre ce qui s'est fait en 68 et puis ce qui s'est fait après. Je prends l'exemple du MLAC. Le MLAC, le Mouvement de Libération pour l'Avortement et la Contraception, est un mouvement mixte qui s'est fait pour soutenir un groupe qui s'appelait le Groupe Information Santé de médecins, de jeunes médecins, la plupart des hommes, mais pas seulement, il y avait aussi quelques femmes, qui avaient fait leurs études de médecine, qui avaient contesté fortement en 68 l'organisation hiérarchique mandarinale des universités, des facultés de médecine. Hein, et là, il y avait une vraie lutte féministe, sinon organisée, mais en tout cas de type féministe, avec toutes les femmes, les femmes qui étaient dans les laboratoires, c'est les femmes de ménage, les étudiantes. Enfin, il y avait eu cette lutte-là réelle pour protester, et en particulier contre quelque chose qu'on n'appelait pas encore le harcèlement sexuel, mais qu'on appelait la main aux fesses, hein, des patrons par rapport à toutes ces femmes qui étaient là. Donc ça existait, il y a des traces de ça, et il y a des tracts, il y a des journaux. Donc il y a eu cette chose-là, et il y a eu effectivement ces groupes de féministes qui, après 68, et puis ça a été baptisé en 70, ce mouvement de libération des femmes, hein, ont dénoncé cette situation-là. Mais je voudrais vous dire, par rapport à Libération des femmes, année zéro, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce mouvement-là ne se développe pas en circuit fermé. C'est-à-dire qu'il est dans un environnement international, et que, en particulier, ce numéro de partisans Libération des femmes, année zéro, est constitué pour la moitié de textes traduits de l'anglo-américain, et qui sont des textes du mouvement féministe américain, qui a eu une très grande importance, si vous voulez, pour, non seulement pour le nom, puisque c'est le même nom, en fait, c'est la presse qui a baptisé MLF, hein, mais c'est la traduction littérale du mouvement féministe américain. Et il y a toute une série de débats qui agitaient les féministes, qui sont venus directement des États-Unis. Donc il y a ce qu'on appelle des transferts politiques, d'idées, de manières de faire, de répertoires d'action qui viennent des États-Unis et qui, d'ailleurs, l'article qui paraît dans le journal qui s'appelait L'Idiot International est pour l'essentiel fait par des Américaines, Il y a des Françaises, mais il y a aussi des Américaines. Et devant l'Arc de Triomphe, le 26 août 70, c'est pour soutenir la grève des femmes, grève générale des femmes aux États-Unis. Et le groupe qui est là, qui est une dizaine de jeunes femmes, est constitué pour l'essentiel aussi d'Américaines. Donc voilà, je crois que c'est important de dire qu'il y a, il y avait cette influence-là donc dans la réflexion et dans le mode d'organisation.
Et justement, puisque vous parlez de ce groupe de médecins qui va contester l'ordre médical en 68 et qui ensuite va se mettre à faire des avortements
publics.
À partir de quoi, de 1970-1971
Oui, à partir de 1971, c'est quand ils ont pris connaissance en fait de la méthode Karman, qui permettait de pratiquer des avortements par aspiration, 71-72. On fait ces avortements dans les hôpitaux. Et c'est justement pour ça qu'a été créé le MLAC, c'est pour soutenir ces jeunes médecins qui prenaient des risques de tous ordres, hein, puisque l'ordre des médecins était très opposé à ces choses-là. C'est comme ça qu'a été créé le MLAC.
Là, l'histoire du mouvement féministe croise l'histoire de jeunes médecins qui contestent l'ordre médical et notamment son conservatisme extrême. Hein, l'ordre des médecins, vous le rappelez dans le livre, a été fondé pendant la période vichyste. Donc voilà, c'est quand même une institution extrêmement conservatrice et réactionnaire sur ces questions. Et justement, est-ce que on pourrait parler maintenant parce que là, on a parlé beaucoup de ce qui se passait, alors effectivement chez les femmes ouvrières, aussi dans le féminisme parisien. Donc là, on renvoie plus précisément à l'émission qu'on a fait avec Christine Delphi pour plus de développement, et puis aussi au livre, puisque vous racontez cette histoire dans le livre. Parler un petit peu peut-être des féminismes provinciaux, peut-être dans ce qu'ils ont de différent par rapport à la fois au féminisme parisien et à la fois aux luttes des femmes ouvrières.
Oui, alors. Je voulais préciser aussi qu'il n'y a pas que des ouvrières, il y a d'une façon générale des salariés. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure des nouvelles galeries de Thionville, il y a des ouvrières, certes, et Fanny Gallo a fait une thèse là-dessus, hein, sur ces ouvrières des années 68, en particulier les ouvrières de la lingerie, etc., avec un livre qui s'appelle « En découdre », je fais de la pub hein, quand même. Et donc, il y a d'autres entreprises, en particulier, il y a tout un secteur où ça s'est beaucoup développé, qui est le secteur des banques, et avec des débats énormes dans les sections syndicales, parce qu'il y a même des sections syndicales de la CFDT dans les banques qui ont voulu être non mixtes. Et là, il y a eu un vrai débat à la CFDT, il y a même des sections qui ont été dissoutes parce qu'elles voulaient être non mixtes. Donc voilà, c'est pour dire que c'est un mouvement qui n'est pas seulement dans les usines. Hein. Il y a eu toute une série d'autres endroits de débats sur ces questions-là. Alors votre question, c'était sur les féminismes provinciaux. Alors oui, ça c'est le produit de... On sait ça depuis peu. Depuis, entre autres, des thèses récentes qui ont été faites par des jeunes historiennes sociologues. En particulier donc la thèse de Camille Masclet, qui a porté sur les féministes à Lyon et à Grenoble. Et puis la thèse qui a porté une thèse d'une chercheuse italienne, une historienne italienne, Anna Frizzon, qui a porté sur une comparaison justement entre ce qui se passait dans ce qu'elle appelle le féminisme syndical dans les entreprises en Italie et en France. Elle a pris Lyon aussi, mais avec... façon de faire différente de Camille Masclet. Et donc, ces jeunes chercheuses montrent à la fois le lien entre les féminismes provinciaux, mais aussi un développement propre, on peut dire, qui fait réviser un peu la chronologie du féminisme. On a une chronologie presque établie aujourd'hui, on peut dire, de naissance. Alors, ça se discute entre 68 et 70, mais bon, disons 70, hein. Je partage le point de vue de Christine Delphi là-dessus, je crois. Et puis qui s'arrête en 79, quand après le conflit avec le groupe qui s'appelait Psychanalyse et Politique, groupe du MLF au départ, qui reprend le titre MLF et qui le dépose comme propriété industrielle, il y a cette coupure, cette dramatique, on peut dire, dans le mouvement féministe. Et puis il y a beaucoup d'histoires qui s'arrêtaient là, en 79. Hein. Or, ce que montrent ces jeunes chercheuses, là, qui viennent de, pas encore publiées, mais enfin qui viennent de finir leur thèse, c'est qu'en fait, en province, les groupes ont perduré plus longtemps, jusqu'en 82, 83, 84. Et elles l'ont fait par une approche qui n'avait pas été encore faite jusqu'à présent, c'est-à-dire par une approche biographique, en retrouvant des gens, en faisant des parcours biographiques, et en voyant comment le féminisme, justement, avait transformé à la fois leur manière de voir les choses, mais aussi de vivre, et en particulier comment leur féminisme avait transformé leur façon d'éduquer les enfants. Et donc, il y a quelque chose là qui est extrêmement intéressant et nouveau, si vous voulez, qui porte non seulement sur cette chronologie qui est quand même étendue un peu au début des années 80, mais aussi sur ce que ça avait fait. Et je pense qu'une des pistes les plus prometteuses pour faire encore avancer la connaissance de cette période, hein, qui devrait être faite aujourd'hui par des plus jeunes, qui a déjà commencé à être faite, entre autres par Julie Pagis, hein, dans un très beau livre qui s'appelle « Un pavé dans leur histoire », donc qui fait à la fois le suivi biographique d'enfants de 68ards, je mets des guillemets, et des 68ards eux-mêmes, c'est-à-dire voir voilà, comment c'est... Ça s'est fait, comment la socialisation s'est faite dans des gens qui avaient été impactés par l'événement 68. Et donc tout cela fait bouger les choses. C'est-à-dire qu'on voit, et ça déconstruit toute cette image qui était longtemps, cette vulgate qui était longtemps imposée sur 68, d'un mouvement uniquement culturel, hédoniste, etc., qui n'avait rien changé, sinon les mœurs. Et elle montre... les différentes recherches montrent à la fois comment les gens sont quelque part ont traduit dans leur vie ultérieure, leurs choix professionnels, etc., l'incandescence qu'ils avaient vécue dans ce moment 68.
Oui, c'est-à-dire que 68, c'est pas uniquement un coup d'épée dans l'eau, ou alors, selon les théories encore plus fantaisistes, et souvent qui viennent d'extrême droite, mais qui se diffuse malheureusement fortement à gauche, que ce soit finalement une tentative de mai 68, une espèce de modernisation libérale, d'un capitalisme gaulliste un peu ancien.
Libertaire,
voilà, c'est ça, le fameux libéral libertaire, dont la preuve serait quelques politiciens comme Daniel Cohn-Bendit. Là, on voit bien que pour des gens plus ordinaires qui n'ont pas réussi à en faire fortune...
Oui, il n'a pas fait fortune, il ne faut pas exagérer.
Oui, bon. qui n'ont pas réussi, disons, à en tirer des avantages politiques, disons. Ça a vraiment eu un impact de transformation subjective. Même si, effectivement, d'un autre côté, cette transformation subjective n'a pas réussi à se renforcer dans les années 80. Voilà. Mais peut-être, justement, pour revenir à un autre moment de tension du mouvement féministe, c'est non seulement le moment de 1979 avec Antoinette Fouque qui dépose le MLF comme marque industrielle, ce qui provoque évidemment des tensions très importantes dans le MLF, mais il y a aussi une tension qui est peu connue peut-être aujourd'hui. Il va y avoir une tension, disons, entre les lesbiennes séparatistes et des femmes lesbiennes ou non qui considèrent que l'unité des femmes est plus importante. Et ça fait suite à des tensions qui sont longues, hein, dans l'histoire du mouvement féministe entre hétérosexuels et lesbiennes. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet épisode pas très connu
Oui, alors je crois que ça va avec toute l'histoire du mouvement féministe, hein. C'est-à-dire qu'à partir de, on va dire, 75, il y a quand même une évolution. C'est-à-dire qu'on passe d'un mouvement qui faisait beaucoup de choses dans le spectaculaire, dans la rue, dans des coups d'éclat, etc. Un mouvement qui se replie un peu sur lui-même, avec la constitution de lieux spécifiques, des cafés de femmes, des appartements de femmes, une espèce de... On se love, on peut dire, entre soi, entre femmes. Mais dans ce « nous, les femmes », qui est mis en avant, hein, que certains défendent encore vivement, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une unité du groupe femmes, on voit des craquements. On voit des craquements, non seulement les craquements... très connu entre le groupe psychanalyse et politique et d'autres groupes, hein, mais des craquements qui sont des choix d'orientation sexuelle, mais qui sont pas nouveaux. La spécificité du mouvement français, c'est que les lesbiennes, pendant un certain temps, sont restées intégrées au mouvement féministe, alors que dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, elles avaient rapidement créé des groupes spécifiques autonomes. Là, les lesbiennes, tout en constituant des petits groupes à l'intérieur du MLF, mais se considéraient et étaient considérées comme partie prenante du mouvement féministe. Alors, dans la seconde moitié de la décennie féministe, hein, on peut dire à partir de 75-76, il y a eu des formes d'organisation qui ont, séparatistes, on pourrait dire comme ça, qui ont abouti ces manifestations de 79-80, où c'était hétérosexuel capot du patriarcat. Entre parenthèses, capot, enfin, c'est très fort, comme, à la fois c'est très fort comme, comme mot, puis c'est, donné, c'est le nom donné aux femmes allemandes, en général, mais pas seulement allemande, mais qui surveillait les camps, les baraques des camps de femmes nazies, hein, les camps nazis, pardon. Donc quand même, c'est énorme. Et à la fois, ça montre, alors ça c'est plus général, mais je crois que c'est assez important, la prégnance de ce vocabulaire-là qui imprègne la France à ce moment-là. En 78, on est quand même le moment où le négationnisme éclot publiquement, et où ce vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale contamine, on peut dire, les façons de voir les choses. Je crois qu'il faut réfléchir aussi, qui montre que le mouvement féministe n'est pas du tout un mouvement isolé dans son coin, qu'il est aussi traversé par toute une série d'autres réflexions, d'autres courants politiques et d'autres influences. Je ferme la parenthèse. Donc il y a cette fragmentation, voilà, moi j'ai appelé ça fragmentation, cette fragmentation des féministes. Alors, il y a la question de l'orientation sexuelle, les lesbiennes, les autres, mais il y a aussi la question de l'origine, et en particulier des regroupements de femmes. Alors, soit au départ, ce sont des femmes exilées d'Amérique latine, ou des femmes qui ont migré, mais qui veulent rentrer, comme le groupe des femmes algériennes, par exemple, hein, qui clairement se positionne pour un retour et pour une Algérie plus démocratique, hein, contre le code des codes de la famille, etc. Voilà. Et puis, il y a des femmes noires. Et ça, c'est une question qui aujourd'hui est très débattue avec le développement de ce qu'on a appelé l'afroféminisme, de la place qu'ont eu les femmes noires ou pas dans le mouvement féministe. Et je crois que c'est important de revenir là-dessus. Ça a correspondu à la période que je vous dis, c'est-à-dire c'est entre 1977-18 et 1982-83. Il y a eu des regroupements sous des noms divers de femmes noires qui avaient des revendications spécifiques. Alors je dis femmes noires parce qu'il s'agissait au départ à la fois d'antillaises et d'africaines. Et il y a eu tout un mouvement, alors là aussi sans doute avec influence des États-Unis, de parution de livres en 1975-76, les livres traduits des États-Unis, mais aussi des livres, je pense à un livre d'une Sénégalaise, La parole aux négresses, hein, donc qui ont fait émerger cette discussion-là des questions de la race. Angela Davis est traduite aussi, donc voilà. Ces questions-là émergent à la mi-temps, on peut dire, de la décennie féministe, 75-76. Réfléchissons aussi qu'il y a 75, l'année internationale de la femme. Alors, on peut discuter de ça, fait par l'ONU. Mais il y a toute une série de débats qui apparaissent sur la place publique. Deux pays nouvellement indépendants, et c'est des grands débats, c'est l'excision. Qui est dénoncée d'abord par des féministes blanches, je mets des guillemets, et puis qui après est reprise par des féministes d'africaines. C'est un débat extrêmement important. Hein. Alors, ces féministes noires qui se regroupent, qui font une association, pas déclarée, hein, comme toutes les associations du moment, mais enfin c'est un groupe, on a quelques témoignages, on a des affiches, on a des brochures, enfin on a des traces. Mais elles ont été longtemps absentes des histoires du féminisme français. C'est une chercheuse qui s'appelle Claudie Le Cellier qui a fait ressurgir ces groupes de femmes qui n'avaient pas d'histoire, hein, enfin qui avaient une histoire, qui avaient leur propre histoire, mais je veux dire qui n'étaient pas dans l'histoire écrite, quoi. Et donc on a retrouvé des traces et alors il y a un débat qui est aujourd'hui sur la place publique. très très fortement avec la publication d'un livre de Françoise Vergès sur le ventre des femmes. Il y a ce débat sur est-ce que les féministes blanches ont nié, n'ont pas vu quelles étaient les revendications spécifiques des femmes noires, hein, des féministes noires. Et donc je pense que ce débat-là doit être nuancé pour plusieurs raisons. Alors, quel était le débat ? Le débat, c'est que, alors que les féministes françaises blanches donc, se battaient pour la contraception et l'avortement, les féministes noires, les femmes noires, se battaient contre la contraception et la stérilisation forcée. Et effectivement, il y a des affiches, on voit, et il y a des banderoles de manifestations qu'on voit, où on voit que cette revendication existait. C'est-à-dire que ces femmes revendiquaient de ne pas être soumises à des stérilisations et une contraception forcée. Y a-t-il eu des politiques dans les départements d'outre-mer qui ont été des politiques différentes de celles appliquées en métropole, on va dire comme ça, dans l'Hexagone ? Eh bien, c'est une question qui est en débat. Ce que dit Françoise Vergès, en s'appuyant sur un cas, c'est-à-dire le cas d'une clinique à La Réunion, où on a par force stérilisé des femmes, avorté des femmes, stérilisé même des femmes, pour des raisons d'argent. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de médecins qui a fait de l'argent sur le ventre des femmes et qui a fait, je crois qu'elle parle de 8000 avortements forcés à La Réunion en 1971. Chose qui a été dénoncée par le Parti communiste réunionnais. Françoise Vergès s'appuie pour sa démonstration sur les articles du Parti communiste réunionnais. Sauf que, et c'est là que moi j'ai une question qui se pose et qui n'est pas du tout résolue. C'est un travail à faire, donc s'il y a des gens que ça intéresse, il y a une thèse à faire là-dessus. C'est quelles ont été réellement les politiques démographique de la France dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Vous voyez, c'est-à-dire que par rapport à ce cas-là, qui est spécifique à La Réunion de 5 médecins dans une clinique qui voulait faire de l'argent et pour sur l'assistance médicale gratuite, sur la sécurité sociale et qui en ont fait. Alors, il y a eu 5 médecins, cinq personnes qui sont passées en tribunal. Les 3 réunionnais d'origine métropolitaine ont été acquittés. Il y avait un médecin d'origine marocaine qui était condamné et l'infirmier chef qui était réunionnais. C'est assez intéressant comme jugement quand même. Et donc c'est un cas réel qui a existé. Est-ce que de ce cas, on peut induire qu'il y a eu l'ensemble d'une politique sur le ventre des femmes et que les féministes blanches n'ont rien vu ? Là, je serais plus nuancée. Je vous donne un exemple, le petit exemple que je connais. C'est qu'on a essayé effectivement de développer une contraception, alors qu'elle n'était pas autorisée en France, dans les Antilles. Et que dans les Antilles, il y a eu tout de suite une levée de bouclier de l'Église. L'Église, évidemment, c'était contradictoire avec sa doctrine. Et donc, cette politique-là n'a pas pu être appliquée. Vous voyez ? Donc, il y a toute une histoire à faire de ça. Effectivement, elle a soulevé un problème intéressant, Françoise Vergès, je crois. Elle a soulevé un problème intéressant, mais il faut... Il faut se garder de généraliser. Alors, par rapport à ce qu'ont fait les féministes, moi, je vais dire quand même quelque chose. Dans la charte du MLAC de 1973, il y avait précisément un article qui disait qu'on ne devait pas imposer de contraception obligatoire dans les DOM. Donc, si vous voulez, il y a une prise de conscience des féministes en 73, hein, de ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu de fait. Les manifestations de femmes noires ont été photographiées par Catherine Dedon, qui est la photographe du MLF, hein, dont les photographies sont déposées à la bibliothèque Marguerite Durand, on peut voir. Donc les photos qu'on connaît, c'est elle qui les a faites. Donc il n'y avait pas une séparation totale. Ce qui est sûr, c'est que les revendications des féministes noires n'étaient pas celles des féministes françaises de l'Hexagone, quoi. Ça, c'est clair. C'était pas les mêmes, parce, voilà, c'était pas les mêmes situations. Donc, mais il y a un vrai débat là.
Finalement, c'était en apparence contradictoire, puisque oui, d'une certaine manière, c'est toujours le droit à disposer de son corps et le droit de que ce ne soit pas l'État qui décide est-ce qu'il faut faire des enfants ou est-ce qu'il ne faut pas en faire. Et du coup, comme vous avez parlé justement de ces revendications qui étaient différentes, quelles étaient les revendications de ces afroféministes ?
Alors, on ne disait pas afro-féministe à l'époque. Hein, donc, ces revendications, c'était là. C'était, vous avez tout à fait raison de le dire. J'ai essayé de concilier un petit peu et de reprendre ce qui pouvait être repris, je pense, à la thèse de Françoise Vergès. Mais vous avez tout à fait raison de dire que c'était exactement la même socle. C'était pouvoir disposer de son corps, que les femmes disposent de leur corps. Et disposer de leur corps, ça voulait dire pouvoir avoir de la contraception, pouvoir avoir l'avortement libre et gratuit si indispensable, mais aussi pouvoir ne pas avoir de contraception et pouvoir faire des enfants si on en a... Enfin, voilà. Donc, c'est ça, disposer de son corps. Il n'y avait pas du tout de contradiction entre... mais avec des revendications qui étaient différentes et qui se sont exprimées. Et d'ailleurs, quand on regarde de près les affiches, enfin, moi, j'ai étudié de près les affiches, les mots d'ordre mêlent les mots d'ordre qu'on pour appeler les mots d'ordre des féministes hexagonales, on va dire, et puis les mots d'ordre spécifiques des Antilles et de la Réunion, enfin, ce qu'on appelait les départements d'outre-mer. Donc voilà, les affiches ont les deux types d'arguments dans l'énoncé. Hein. Ça fait des affiches d'ailleurs avec un texte, pas possible, mais bon, voilà. Donc ça, c'est très très intéressant, mais c'est un vrai débat et je crois qu'il demande des recherches très approfondies, plus approfondies.
Et du coup, ces mots d'ordre spécifiques, c'était quoi? C'était contre l'excision, contre les politiques coloniales?
Alors, contre l'excision, contre la contraception obligatoire, hein, c'est ça. C'est-à-dire, à partir de ces exemples-là, cet exemple-là réunionnais, parce que c'est une clinique, hein, attention, c'est pas toute la Réunion, hein, c'est une clinique, à partir de cet exemple réunionnais, qui était connu parce qu'il y a eu des articles, ça Françoise Vergès le montre, il y a eu des articles dans l'Observateur, dans Politis, dans Le Monde, enfin voilà, c'était connu sur le continent, si je peux dire, et donc c'est ça aussi qui était qu'on veut disposer de notre corps, mais jusqu'au bout, quoi, y compris celui de faire des enfants. C'était ça, la revendication spécifique.
D'accord. Et par rapport à, du coup, puisqu'on arrive à la fin de notre émission, qu'est-ce qui constitue, selon vous, les principaux, à la fois, héritages et les principales ruptures du féminisme postérieur, et notamment du féminisme contemporain ou des luttes des femmes plus généralement, avec justement le féminisme des années 68. On voit par exemple qu'à un moment, au début des années 2000, la mixité était plus... maintenant, il y a un retour à la non-mixité. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à tout ça?
Oui, alors on peut revenir sur la question mixité-non-mixité, parce qu'effectivement, ça a été un des piliers, on peut dire même pilier sacré du MLF, la non-mixité. Mais si on regarde d'autres mouvements féministes, parce qu'à côté du MLF, il y a eu d'autres mouvements féministes de la même époque, je pense à Choisir, par exemple, je pense au MLAC, etc., c'était des mouvements non mixtes. Et il y a eu des hommes féministes qui ont soutenu les revendications. Donc la non-mixité est certes caractéristique du MLF, mais ce n'est pas l'ensemble des féminismes de la période des années 68. Ça, c'est la première chose. Effectivement, je crois que c'est à partir de 96-97, des groupes féministes se sont reformés et ces garçons et ces filles qui, eux, sont allés dans des écoles mixtes, enfin, pour eux, c'était une évidence. Pour eux, c'était une évidence de faire des groupes mixtes. Et d'ailleurs, un groupe qui s'appelait
Mixité,
hein, avec un président, une présidente, etc. Avec ce souci-là, justement, à la fois d'égalité forte, y compris de représentation, hein, mais aussi de mixité. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a des débats et qui font débat sur la non-mixité. Alors sur le retour à une non-mixité, une non-mixité de sexe, de genre, et une non-mixité de race, bien que le mot soit banni globalement en France. Et ça fait beaucoup débat. Il y a eu cet exemple de ce festival afro-féministe organisé alors en partie en atelier non mixte, mais aussi organisé de façon très très fine, on peut dire, des ateliers non mixtes, pour que les femmes puissent s'exprimer entre elles, qui est une revendication des féministes des années 70, c'est la même. Hein. Donc moi, je comprends pas qu'on puisse, quand on a soutenu des revendications des féministes des années 70, qu'on ne puisse pas soutenir ce type de choses en disant « ces femmes veulent parler entre elles ». Mais elles avaient aussi prévu des ateliers avec des hommes noirs et aussi des ateliers avec des... Donc c'était en fait très très bien organisé. Et l'interdiction qui a été faite un temps par la mairie de Paris, de mon point de vue, ne se justifiait pas.
Oui, et du coup, on voit qu'effectivement, là, il y a, enfin, derrière cette opposition effectivement, entre la mixité et la non-mixité, on voit que dans les faits, que la non-mixité est quelque chose d'absolument nécessaire à un moment et même pour organiser la lutte féministe. Parce que si on reprend le fil des années 68, c'est qu'à un moment, si la non-mixité s'est imposée, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, justement, que les hommes prenaient trop la parole, que comme ils défendaient leurs propres intérêts, ils pouvaient s'opposer à ça, etc. Et qu'en même temps, comme dans les années 68, le MLF n'était pas non plus une bulle refermée sur elle-même, mais qu'en réalité, il y avait des moments de mixité, bon, notamment les manifestations du MLAC. Et c'est là où peut-être ce qui a changé par rapport aux années 70, c'est que maintenant, disons, c'est l'idée qu'il y a plusieurs formes d'oppression qui s'articule. Alors, on parle d'intersectionnalité, on peut parler aussi de consubstantialité des rapports sociaux, et que ces différentes formes, elles appellent à la fois à des organisations et des luttes spécifiques, effectivement, sur le mode de la non-mixité. Et d'ailleurs, c'est assez étrange qu'on remette toujours systématiquement en cause la non-mixité des femmes ou la non-mixité des personnes racisées, mais par contre que la non-mixité ouvrière, par exemple, n'ait jamais été remise en cause. Bon, alors que pourquoi inviter le patron ou le contremaître dans une réunion, voilà, et que en même temps, évidemment, le fait justement que ces oppressions se croisent appelle forcément, et je pense que là, le festival dont vous avez parlé montre bien effectivement que il y a de la non-mixité femme noire, et en même temps une discussion est nécessaire aussi avec les hommes noirs, puis aussi une discussion avec les femmes blanches et que
les hommes blancs.
Voilà, c'est ça, et avec les hommes blancs, et que du coup il peut y avoir effectivement une pluralité de lieux et de formes d'organisation qu'on retrouve aussi dans le mouvement des années 68, même si c'est pas forcément les mêmes organisations. Il y a des organisations qui étaient que mixtes, des organisations qui étaient que non mixtes. Voilà.
Alors je mettrais juste un bémol, c'est que les groupes non mixtes ne sont pas forcément exempts de rapports de pouvoir. Et qu'il y avait dans les groupes de femmes des femmes qui prenaient la parole et qui la gardaient. Voilà, donc je crois que il faut aussi penser à ça. Il ne faut pas avoir une vision trop irénique de la non-mixité.
Et ça, par rapport à deux choses, c'est-à-dire qu'à la fois, dans une assemblée non-mixte comme celle du MLF, il peut y avoir la question de la classe qui rejoue. Évidemment, quand on vient d'un milieu social plutôt aisé, avec un fort capital culturel et scolaire, on a plus d'aisance à parler, et donc du coup, on va avoir tendance. Et puis, il y a besoin de distinguer les formes de domination structurelle, les hommes sur les femmes, les racisants, comme dit Colette Guillaumin sur les racisés, les bourgeois sur les prolétaires. Il faut aussi, donc ils sont là, ce qui ressort de ce qu'on pourrait appeler la domination, des formes de pouvoir, donc par exemple, qui sont plus mises en avant par exemple par l'anarchisme ou par Michel Foucault.
Alors c'est une autre émission. Hein.
Oui,
c'est une autre émission, un autre débat, et ça je veux bien, parce que voilà, il y a... Quand on reprend les textes anarchistes à la fin du 19e, il y a matière à débat. Voilà.
Ah oui, effectivement. Bon, et ben, merci en tout cas, Michel Zancarini-Fournel, d'être venu parler de votre livre et particulièrement des luttes des femmes des années 68. On espère que cette émission vous aura intéressé, chers auditeurs et auditrices. Et on renvoie aussi en complément et un peu en contradiction à l'émission avec Christine Delphi. Voilà, merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
J'ai compris qu'il y avait une lutte spécifiquement féministe et que la lutte contre les valeurs, disons patriarcales en gros, ne se confondait pas avec la lutte contre les valeurs capitalistes. À mon avis, il faut mener les deux luttes ensemble. Mais il serait illusoire de penser que la lutte des classes suffira jamais.